Alors, est-ce que vous savez ce que signifie, je suppose que vous savez ce que signifie l'expression marquer contre son camp, marquer un but contre son camp. Bon, on en parle souvent au foot, dernière Coupe du Monde, il paraît qu'il n'y a pas eu trop de joueurs qui ont marqué un but contre leur camp. Mais quand ça arrive, quelle honte pour la personne qui a fait ça. Elle arrive à faire perdre toute son équipe dans des jeux qui sont considérables pour tout un pays. Mais ça reste quand même qu'un jeu. Et on pardonne facilement au joueur malheureux qui a marqué un but contre son camp. Il y a son équivalent dans la vie chrétienne. Et vous le connaissez, cette expression de notre jargon évangélique, qui est ainsi exprimée, faire un contre-témoignage, faire un contre-témoignage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça m'est arrivé. Je crois que ça arrive à un moment ou à un autre, à tous, dans notre vie et notre marche chrétienne. Ce sont des moments qui ne sont pas faciles à vivre quand on aime le Seigneur. Et c'est ce qui est arrivé à Jacob, à sa famille, dans le passé. Et c'est ce texte qui va nous instruire sur ce sujet ce matin. Alors on va voir le contexte, on va voir l'élément déclencheur de ce contre-témoignage, de ce but marqué contre son camp. Et on va voir également le drame, parce que là c'est un vrai drame, c'est beaucoup plus grave. Infiniment plus grave que de, lors d'une partie de foot, faire une passe dans la mauvaise direction. Alors, voyons voir pour le contexte d'abord. Donc, je ne vous ai pas donné le passage. Genèse. Chapitre 33, à partir du verset 17. Donc on s'est arrêté à 16, et donc il nous restait à voir la fin du chapitre. Genèse 33, verset 17 à 20. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on appelait ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël, qu'on peut traduire ainsi Dieu, le Dieu d'Israël. Alors, Jacob donc rentre du pays de Padan Aram, ou de Charan ailleurs, nommé, pour revenir dans le pays de Canaan, que Dieu avait donné à son grand-père Abraham. Abraham, on l'apprend dans les chapitres qui précèdent, avait répondu à l'appel de Dieu. Il avait cru à sa parole. Il avait obéi à sa voix. Et Dieu lui avait promis une descendance innombrable qu'on ne pourrait compter, semblable au nombre des étoiles. Il lui avait promis de posséder ce pays de Canaan où il avait toute sa vie été qu'un étranger, qu'un voyageur. Qu'un SDF, on pourrait dire, qu'un sans-papier. Et il avait promis d'être une bénédiction pour l'humanité entière. Trois belles promesses qu'avait reçues Abraham. Et Jacob lui-même avait reçu ces mêmes promesses 20 ans plus tôt, quand il partait pour Charan, pour le pays où avait résidé Abraham avant de venir en Canaan. Parce que Jacob fuyait la colère de son frère Ésaü. Dieu lui était apparu en haut d'une échelle, ou d'un escalier, et lui avait fait une promesse que je vais vous lire maintenant. On la trouve en 28, 13 à 15. Donc l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et en ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Une belle promesse. Donc, il avait nommé ce lieu Bethel, la maison de Dieu. Et donc, de retour en Canaan, après ce séjour de plus de 20 ans, où il avait, s'était marié, il avait eu des enfants, il avait acquis également une grande fortune quand il était à Padan Aram. Et donc, sur le retour, Dieu lui avait dit de rentrer et apparemment tout s'est bien passé jusqu'à présent. Il a pu se réconcilier avec son frère Ésaü. Il a des richesses considérables avec lui et comme on vient de le dire, donc il a fait un séjour à Sukkot et après il est venu s'installer à Sichem. Et on peut dire qu'il pense s'installer durablement dans cette ville de Sichem parce que là, voilà, il investit. Il achète un terrain, il devient propriétaire, il se sédentarise, on pourrait dire, et il bâtit là un hôtel pour adorer son Dieu, le Dieu d'Israël. Tout semble bien aller. Mais voilà, voyons maintenant voir l'élément déclencheur dans la suite de notre récit, je vais lire du verset 34. Du chapitre, 34, versets 1 à 12. 34, 1 à 12, l'élément déclencheur. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. On dirait aujourd'hui, il la viola. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec ses troupeaux, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Et ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère. Parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor, père de Sichem, leur adressa ainsi la parole. « Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. » Donnez-la-lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer, faire des affaires donc et acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot, beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Alors Dina est la seule fille de la famille. Hein. Et puis, d'être adolescente, sans doute à ce moment-là, elle veut sortir pour aller voir les filles du pays. Bon. Quoi de plus naturel quand on est adolescente, on est toujours entouré de garçons, que de aller rencontrer, se faire des copines, hein, en quelque sorte. Si sa grand-mère Rebecca avait été là, elle l'aurait mis en garde. Elle l'aurait sans doute empêché d'aller. Parce qu'elle qui avait vécu là, savait ce qui concernait les mœurs des gens de Canaan. Elle témoigne que ça lui inspirait du dégoût. Elle était dégoûtée par les filles et les femmes de Canaan. Et c'est pour ça qu'elle avait envoyé son fils Jacob trouver une femme à Charan, à Padan Aram, donc, ce qu'il avait fait. Et donc, de toute cette tribu, ils arrivaient dans ce pays, mais ils ne le connaissaient pas vraiment. Et donc, voilà notre Dina, toute innocente, on l'imagine facilement, qui va voir si elle peut se faire des copines. Hélas, personne ne la prévient, hélas, elle tombe sur Sichem, le fils du chef, qui porte le même nom que la ville, vous avez compris. Et il commence par la séquestrer, on dirait aujourd'hui, puis il la viole, puis il y déclare son amour. Et vous voyez le chemin que prend Sichem, on dirait qu'il fait les choses complètement à l'envers, mais voilà en tout cas ce qu'il a fait. Et Dina devait être radicalement différente des autres femme qu'il connaissait, et cela peut peut-être expliquer son attachement. Je ne sais pas comment le 21e jugerait cela, si c'est grave ou pas, ou la sanction qui devrait suivre, mais le viol de Dina est vécu comme un outrage pour la famille de Jacob. Côté Sichem, par contre, il n'y a pas un grand problème là, hein. Lui, le père de Sichem, voit l'opportunité de s'allier par mariage avec la famille de Jacob. Et il en s'ensuivrait des fructueux échanges commerciaux, de belles perspectives donc. Et le fils, lui, est prêt à payer le prix, à mettre le paquet, comme on dit, sortir le chéquier, pour que Dina devienne sa femme. On doit pouvoir s'arranger, c'est pas si grave. Et s'ensuit le drame. Un drame en 4 actes. Lisons la suite. À partir du verset 13 jusqu'au verset 20, premier acte. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur, et ils leur dirent: c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait une opprobre pour nous. Nous ne consentirons à vos désirs qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous, tout homme, soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons pour nous les vôtres, nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob et il était considéré de tous dans la maison de son père. Les fils de Jacob, ici, on le voit, profanent la circoncision. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La circoncision était un signe de l'alliance entre Abraham et Dieu. Et tous ceux qui étaient dans la famille d'Abraham devaient se faire circoncire et entrer dans cette alliance, dans cette promesse que Dieu avait faite. Se faire circoncire revenait donc à adopter pour soi le Dieu d'Abraham, l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Il y avait donc une signification spirituelle à la circoncision qui est bien cachée ici par les fils de Jacob. Ils n'envisagent pas un seul instant de faire un seul peuple avec ceux qui avaient violé leur sœur. Mais ils ont calculé de se servir de cette circoncision pour assouvir leur vengeance. Et ça, c'est grave. C'est grave aux yeux de Dieu. Ça fait penser à Jacob, vous savez, qui utilisait le nom de Dieu pour, quand il était en train de mentir à son père, pour justifier le fait qu'il était, il avait le mets préparé, parce que soi-disant le gibier était venu à lui, il l'avait trouvé facilement parce que ton Dieu avait dit amenez le gibier jusqu'à moi. Il avait été utilisé le nom de Dieu pour mentir et pour tromper son père. C'était sa mère qui venait juste de le cuisiner à l'avance. Ton Dieu a fait venir devant moi le gibier. Et là, les fils de Jacob méprisent, foulent aux pieds, profanent la circoncision. La suite, on voit que les habitants de Sichem, à la suite de Hamor et de son fils, tombent dans le piège. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de la ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard. Qu'ils restent dans le pays, qu'ils y trafiquent, le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles, nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils le sont eux circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous ? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville, là où se prenaient les décisions, écoutèrent Hamor et Sichem, son fils. Et tous les mâles se firent circoncire. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville, on dirait maintenant, c'est le conseil municipal, hein, tout le monde est venu là. Alors les habitants de Sichem tombent dans le piège. Hamor et Sichem revendent en quelque sorte la circoncision comme le moyen de faire une bonne affaire. Ça leur coûtera rien que la circoncision, et puis ils vont pouvoir être au bénéfice de tous ces biens, de toute cette fortune que Jacob a amené avec lui. Une bonne affaire commerciale, la circoncision. Une opportunité pour conclure une alliance qui ne coûtera pas un centime. Alors bien sûr, on est loin du sens de la circoncision tel que Dieu l'avait donné à Abraham et à sa famille. Et ensuite suit ce qu'on pourrait appeler un génocide. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les hommes, tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et ils sortirent. Une fureur sanguinaire. Siméon, Siméon et Lévi tuent tous les hommes de cette ville. Tous les hommes de Sichem. Chaque homme était chez lui en train de se soigner de l'opération de circoncision. Et il leur était tellement facile de rentrer dans les maisons avec leur épée et de transpercer les personnes qui se trouvaient là. Et personne n'échappe dans la ville. Tous sont tués. Combien de personnes ont-ils tué? Le texte ne le précise pas. C'était peut-être quand même une ville un peu considérable pour avoir un prince à sa tête et un roi. 20, 30, 100, 300. La parole de Dieu n'a pas jugé utile de nous le préciser. Ça s'arrête pas là. Après le génocide, le pillage, le troisième jour, les fils de Jacob, verset 27, se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs, leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville, ceux qui étaient dans les champs. Ils amenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, tout ce qui se trouvait dans les maisons. Ils ont tout ramassé. La furie gagne aussi le reste des frères, donc, et ils apportent leur contribution à cette vengeance. Vous avez remarqué, ils ramassent tout, même les femmes, les enfants. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Telle était la vocation de cette famille. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Rebecca a été dégoûtée par les filles de Canaan. Et je crois que on a le droit aussi d'être dégoûté ici par les fils de Jacob. Alors, quelles conséquences? La suite. Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens, aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ?» En première lecture, on pourrait penser que Jacob il se soucie surtout pour sa vie et pour sa famille à ce moment-là, qu'on ne leur tombe pas dessus pour se venger à leur tour. « Vous me troublez, dit Jacob. » Cette expression, elle se retrouve ailleurs dans la parole de Dieu. Pour en cerner le sens, on la retrouve dans la bouche de Josué des siècles plus tard, lors de la conquête de Canaan, dans des circonstances qui ne sont pas comparables, et où je ne m'attarderai pas. Après la victoire de Jéricho, où le peuple avait vaincu cette ville avec l'aide de Dieu qui avait fait tomber les murailles, ils connaissent un échec cuisant avec la petite ville, toute simple, toute petite de Haï, qui leur résiste. Et ils vont à sa conquête. Et là, il y a des morts parmi l'armée d'Israël. Et l'armée, c'est désolé, ça y est, tout le monde, toutes les nations alentour vont l'apprendre. Quelle honte pour nous, mais qu'est-ce qui nous arrive au notre Dieu? Pourquoi sommes-nous arrivés là? Et Dieu leur révèle que le problème vient d'un homme, un seul, qui avait volé parmi le butin. Il avait pris des choses pour lui, des lingots, des habits, des trucs qu'il avait enfouis dans sa tente. Et à cause de cela, il leur était impossible d'avoir plus jamais aucune victoire. Ils doivent régler ce problème. Et Josué a ses paroles en s'adressant à Akam. Pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi tu nous as-tu troublés? Et c'est ce même mot ici. Vous me troublez, dit Jacob. Je vais devenir odieux aux habitants du pays. Je vais devenir puant aux habitants du pays. Quel contraste entre la réputation que va avoir ici Jacob et sa famille avec la réputation qu'avait bâti Abraham de son temps. Abraham était vu comme un prince de Dieu. On disait, Dieu est avec Abraham. Et là, quel contraste. La tribu de Jacob, oui, vient de faire un immense contre-témoignage. La survie même de la tribu semble en jeu. Posséder le pays, devenir nombreux, être une bénédiction pour toutes les tribus de la terre, ça semble ici complètement compromis par la vengeance des fils de Jacob. Et on est au plus bas, et tout semble gâché. Et comment a-t-on pu en arriver là, où tout, d'un jour, d'un instant à l'autre, semble pouvoir s'effondrer Dieu, encore une fois, va intervenir. Et d'une façon toute simple. Toute simple. Je résumerai ainsi. Dieu dit simplement, revenez à moi. Revenez à moi. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tout ce qui était avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez de vêtements, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le terrebint qui est près de Sichem et ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit dans les villes qui les entouraient et ne les poursuivit pas, les fils de Jacob. Dieu dit à Jacob, tu n'es pas à ta place. Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Bethel, c'était la maison de Dieu et c'est là que Dieu l'attendait. Mais Jacob, lui, avait préféré s'approcher des hommes, s'approcher de Sichem et s'installer là-bas. Et la ville était devenue un piège pour lui. Cela rappelle l'histoire de Lot quand il s'était installé près de Sodome et de Gomorrhe, qu'il avait préféré là, la plaine aux montagnes escarpées. Dresse un autel au Dieu qui t'est apparu quand tu étais dans la détresse. Jacob, tu n'es pas à ta place. Reviens à celui qui t'a gardé pendant les 20 années de ton séjour à Charam et qui t'a ramené en sécurité ici. Jacob, repens-toi. Et Jacob va le faire. Il fait le grand ménage des idoles parce que ça commence par là. Ôtez les dieux étrangers qui sont parmi vous, dit-il à sa famille. Purifiez-vous. Et c'est ce qui est fait. On va laisser derrière toutes ces idoles qui ont envahi le camp et les tentes de la tribu de Jacob. On va les enterrer pour ne plus jamais les retrouver. Et on va partir de là. Je me suis posé, mais que deviennent les femmes, les enfants de Sichem? Je ne sais pas, le texte ne le précise pas. J'imagine qu'elles ont dû repartir libres. On a dû le lécher le soir. Si vous voulez, vous pouvez venir avec nous. Si vous voulez, vous pouvez rester. Peut-être qu'il y en a qui les ont suivis, d'autres qui sont restés. L'histoire ne le précise pas. En tout cas, Dieu protège gracieusement Jacob et sa tribu de l'extermination. Il envoie sa terreur dans toutes les villes voisines et personne n'ose bouger. Personne ne va les suivre pour tirer vengeance de ce génocide. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait satisfait de cette intervention de Dieu. Le contre-témoignage de la famille de Jacob a-t-il anéanti la promesse de bénédiction pour la ville de Sichem? Il faut voir la suite de Sichem pour avoir réponse à ces questions. Et là, ça se déroule dans le temps. Ça se déroule, on est dans le temps long avec Dieu. On n'est pas dans les choses instantanées. Voyons la bénédiction de Dieu sur Sichem. On a eu raison ce matin de changement d'heure de venir se lever pour louer le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il fait. Malgré le contre-témoignage, la contre-bénédiction des fils de Jacob, Sichem sera béni par le passage de Jacob. Et cette bénédiction se prolonge jusqu'à présent. Voyons cela. Sichem va devenir une ville refuge, quelque chose de entièrement nouveau dans l'Antiquité. Au partage de Canaan, des siècles plus tard, Sichem va devenir une ville refuge, une ville où celui qui est poursuivi parce qu'il a fait un crime ou autre, et parce qu'il y a le vengeur de sang qui le poursuit, il va pouvoir trouver là refuge. Là, il sera protégé, là, il aura un procès équitable. Une ville refuge pour celui que l'on poursuit. Sichem sera une ville refuge. Sichem sera une ville sacerdotale, une ville consacrée à Dieu. Là habiteront des prêtres. Et qui seront ces prêtres? Vous le savez, les descendants même de Lévi, de ce Lévi qui était venu tuer toutes les personnes qui habitaient dans cette ville. Ses descendants viendront l'habiter pour en faire une ville consacrée à Dieu, une ville où l'on trouvera refuge quand on a péché. Sichem, ville sacerdotale. Et si on tourne encore les pages de notre ville, de notre Bible, on retrouve Sichem dans le Nouveau Testament. Des siècles plus tard, Dieu lui-même a visité cette ville qui avait changé de nom et qui s'appelait maintenant Sichar. On va lire cela en Jean chapitre 4. Verset 1 à 42. Je vais le lire rapidement en simplement m'arrêtant sur les passages importants. Verset 3. Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Sichem. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils, ce champ qu'il avait acquis pour 100 quises d'état. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué. Était assis au bord du puits, c'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et lui dit, donne-moi à boire. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs ont aucune relation avec les samaritains. Et Jésus répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais donné toi-même, tu lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, viens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu cinq maris, celui qui n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré cette montagne. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, ce sera pas ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis. moi qui te parle. Je avance un petit peu, les disciples reviennent. Ma nourriture, dit Jésus, est de faire la volonté de celui qui est moi, envoyé d'accomplir son œuvre. Ne voyez-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson, voici. Levez les yeux, regardez. Les champs qui déjà blanchissent pour la moisson, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème, que celui qui moissonne se réjouisse. En ceci est vrai, l'un sème, l'autre moissonne, je vous ai envoyé moissonner, vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans le travail. Plusieurs samaritains de cette ville crurent à Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand les samaritains vinrent le trouver, ils le prirent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup, grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ainsi les habitants de Sichar, de Sichem, ont été visités, tout spécialement, par la postérité bénie d'Abraham, Jésus. La bénédiction de Dieu sur Sichem n'est pas terminée, même jusqu'à présent, ça continue. La semaine dernière, notre sœur a pris les eaux du baptême et elle avait choisi ce beau passage pour nous parler de la façon dont elle avait reçu la bénédiction de Dieu, cette eau vive, comme cette femme samaritaine. Sichem est devenu aussi une bénédiction pour nous. Qu'avons-nous appris par rapport à notre témoignage, notre contre-témoignage donc? Bien sûr, c'est grave. L'histoire du christianisme est tachée de sang. On nous en fait le reproche si souvent. Et ce n'est pas par hasard chaque fois que des témoignages, des contre-témoignages arrivent. Posons-nous la question pourquoi et comment j'en suis arrivé là. Parce que le chemin pour s'en sortir, c'est de revenir vers Dieu. Troisièmement, tout n'est pas perdu car Dieu reste Dieu. Et on l'avait entendu, Bob nous a dit ça la semaine dernière. Il n'a pas besoin de nous pour accomplir les promesses qu'il a faites. Heureusement. Heureusement. Autrement, ce serait cuit. Tout n'est pas perdu, Dieu est là. Mais puis j'ai marqué cette phrase de grâce, église de Figeac. Ne marquons pas de but contre notre propre camp. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Oui Seigneur, merci parce que tu es infiniment grand. Et nous qui sommes pécheurs, tu es infiniment bon. On l'a chanté, Dieu est bon. Et ta bonté, ta miséricorde, ta patience dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Tu n'as pas oublié les martyrs de Sichem. Tu n'as pas oublié de bénir cette ville. De nous bénir, nous, maintenant, à travers elle. De faire jaillir cette eau vive qu'on trouve dans le Seigneur Jésus-Christ là-bas. Merci Seigneur pour cela, aide-nous à toujours rester proche de toi pour ne pas faire de dégâts qui soient des choses qui aillent contre ton plan, et au contraire, apprends-nous à être, de travailler avec toi, d'être de bons témoins de toi, de ne jamais en arriver à cette situation. Fais-nous grâce pour cela, Seigneur. Garde-nous. Tu es le bon berger. Pardonne-nous, Seigneur. Tu sais la façon dont les choses peuvent arriver, comment elles arrivent vite, comment, quand on se croit debout, on est vite en danger de tomber. C'est toi, Seigneur, qui nous tiens et nous voulons rester tout proche de toi dans l'humilité, comme des enfants auprès de leur papa. Dans le nom de Jésus, Amen.